Max Jasinski, Le pont aux âmes. La soupe est-elle prête, ma femme?
Non, elle n'est pas prête.
Est-ce que les légumes sont au feu?
Non, ils sont pas au feu.
Ont-ils été cueillis, au moins?
Non, ils sont pas cueillis.
Alors, quand mangera-t-on?
Quand tu auras fait la cuisine.
Alors, quoique le pauvre Jacques eut faim, il n'eut pas le courage d'entreprendre cette besogne. Il se coupa un morceau de pain et s'en alla, mélancolique, le long de la rivière, méditer sur son triste sort. Cette mélancolie était justifiée et triste, cet état de son sort. Car ce dialogue se reproduisait presque quotidiennement. Il travaillait au champ toute la journée, et au retour, il trouvait sa femme décidée à ne rien faire. Les reproches, les menaces, tout était inutile. S'il voulait boire, il devait lui-même aller chercher le vin à la cave. Dîner, il devait lui-même préparer le plat. Coucher dans un bon lit, il devait lui-même retourner la paillasse. En outre, non contente d'être oisive et paresseuse, sa femme était acariâtre. Elle n'ouvrait la bouche que pour injurier et geindre, que pour se plaindre. Comment elle était mal logée, mal nourrie, mal vêtue. Ah, si elle avait épousé Jean-Paul, elle aurait des riches habits et des servantes, mais elle avait été assez sotte pour accorder sa main à Jacques, ce pauvre air, ce loqueteux, ce fainéant. Elle était inférieure à toutes ses amies. Tout le voisinage se moquait d'elle. On avait pitié. Et cela durait longtemps sur ce ton-là. Jacques avait encore les mains crasseuses, terreuses, les reins courbaturés. À force de sarcler, de bêcher, de labourer, il écoutait ce discours. Et s'il risquait à interrompre ce discours s'achevait en cris inarticulés, en gémissements furieux, en torrents de larmes. Bref, il menait une vie d'enfer. Il se remémorait sa misère en marchant. C'est alors qu'il arriva près d'un pont où il s'accouda sur le parapet et regarda l'onde couler sur les galets. Des poissons filaient, rapides comme des flèches. Il envia les poissons. Il envia les hirondelles qui venaient poser en volant leurs petits corps bleutés. Les mouches d'eau qui traçaient des ronds sur la surface brillante, les herbes aquatiques qui flottaient comme des chevelures, tout, animaux, insectes et plantes, lui parut joyeux et béni du ciel, puisque rien de tout cela n'était marié. Un bruit de sabots le fit se retourner. Un paysan s'approchait, conduisant un âne qu'un fagot de branchage recouvrait presque entier et dont les naseaux blancs et les longues oreilles semblaient sortir d'un buisson. Tous les deux allaient d'un pas égal. À l'entrée du pont, brusquement, la bête s'arrêta. cria l'homme. Ce fut en vain. Alors il flatta la croupe osseuse, le front plat et dur. L'âne demeura immobile, ainsi qu'une borne. Jacques s'intéressa au spectacle. Le paysan en parla ensuite à sa bourrique. « Avance, Martin, nous allons être en retard. Allons, avance. À l'écurie, tu auras bottes et paille fraîches. Mais avance, mon beau Martin, mon cher ami, mon cher camarade. Mais on aurait dit que Martin avait les quatre pattes clouées au sol devant l'insuccès de ses bons traitements et des bonnes paroles. Le paysan s'impatienta. Il attrapa la bride et tira de toutes ses forces. L'âne se raidit ses membres vigoureux. Alors il passa de l'autre côté, s'arc-bouta et poussa de l'épaule à la naissance de la queue. L'âne se raidit encore et ne bougea point. Oh, tété, stupide, brute! Cria-t-il. Hue, je te tape! Il lui rugit à l'oreille des menaces d'autres invectives. L'âne resta, dressa nonchalamment les oreilles, comme s'il était incommodé par une mouche, et ne broncha point davantage. L'âne allait s'arracher les cheveux, mais il se ravisa. Il assujettit avec la lanière de cuir la trique qu'il avait en main, fit deux ou trois moulinets et asséna quelques coups à son rétif compagnon. Quand l'effet fut immédiat, et le quadrupède se mit à galoper, à trotter, en secouant le fagot d'un trot régulier et allègre, et si vif que l'homme avait peine à le suivre, et qu'en un instant, tous deux disparurent. Au détour du chemin, loin de l'autre côté du pont, Jacques remercia le hasard de cette leçon. Il coupa un tout jeune chêne, bien droit, dont il ôta les rameaux, les feuilles et l'écorce. Et muni de cette baguette solide et souple, il rentra au logis. Son sourcil était haut, sa démarche résolue. « Femme, dit-il d'une voix ferme, la soupe est-elle prête ?» L'aimable épouse se chauffait les pieds dans l'âtre. Elle leva les yeux vers Jacques et se mit à rire. « Les légumes sont-ils au feu ?» Elle haussa les épaules. « Sont-ils au moins cueillis, ces légumes ?» Elle répondit avec calme. « Mais va te promener !» Alors la baguette de chêne tournoya, et ce fut une correction magistrale, une copieuse raclée. Il y eut des pleurs, des lamentations, des supplications, des serments de devenir docile. Il y eut des hurlements qui terrifièrent la basse-cour, des appels désespérés qui amenèrent à la porte ouverte le mufle baveux et compatissant de la vache. Ce fut un horrifique vacarme
que tout le village entendit. Les voisins se dirent philosophiquement: oh ben voilà longtemps que cela aurait dû arriver. Et les voisines affirmèrent avec conviction: oh, elle l'a pas volé. Et ce soir-là, Jacques, triomphant, mangea une soupe chaude, fortifiante, qui lui fut servie humblement, avec des yeux rouges, un reste de sanglots dans la gorge et de petits reniflements douloureux. Mais, dès le lendemain, il reconnut que si les coups de bâton sont utiles aux âniers, ils le sont moins aux maris. Sa soupe n'en fut pas plus prête à l'heure, sa maison n'en fut pas mieux tenue, la ménagère n'en fut pas moins hargneuse, querelleuse, frénétique, criarde et détestable. Et comme il avait à se faire pardonner ses violences, il fut encore plus soumis, dolent, résigné, asservi et piteux. Car, disaient avec raison nos ancêtres, comment un pauvre homme pourrait-il lutter contre une mauvaise femme, puisqu'une mauvaise femme viendrait à bout du diable?